Les voix du livre. Une émission proposée par Hélène Séjot, de la librairie du Cyprès Jean de la Lune à Nevers, et Claire Garand, biographe chez mémorialiste.fr. Vous êtes bien sur Bac FM. Alors, nous accueillons aujourd'hui François Grosseau, cofondateur et co-directeur des éditions du Chemin de Fer. Bonjour François.
Bonjour Claire.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, ce mois-ci, vous allez voir, on a une actualité très riche, la vôtre aussi, mais toute l'actualité est très très développée puisqu'on a déjà à la FNAC les dédicaces de Magali Guyot le 9 novembre de 14h à 18h. Alors, c'est pas du tout le genre de texte que vous publiez. Elle viendra dédicacer 2030, un roman de science-fiction, publié aux éditions Rebelles. Et c'est beaucoup plus long que ce que vous publiez.
On a publié quelques textes de science-fiction quand même.
Oui, alors celui-là, c'est peut-être pas tout à fait le genre de science-fiction. Mais oui, les éditions du Chemin de Fer sont très éclectiques. Une dédicace également de Nathalie Gaud, dédicace de ses romans policiers, toujours à la FNAC, le 16 novembre, de 14h à 17h. Et également des dédicaces de Thierry Rollet, le 23 novembre, de 14h à 17h aussi. Alors lui, c'est un auteur d'ouvrages jeunesse. Et je voudrais aussi annoncer un très très beau tandem dans le cadre du festival du même nom. La prochaine rencontre, donc le prochain chapitre et finalement le dernier de cette année, ce sera François Bon, et oui, François Bon et Dominique Pifarelli, qui est violoniste, autour de, décidément nous sommes en pleine science-fiction, autour de Lovecraft. François Bon l'a traduit, tout le monde ne le sait pas, parce que c'est vrai qu'on associe François Bon souvent au réalisme, mais là il a traduit donc Lovecraft, il a même écrit des récits sur lui. Et il sera question donc dans ce tandem de ses nouvelles, les nouvelles de Lovecraft, et en particulier l'une d'elles, qui s'intitule « La musique d'Eric Zahn », d'où la présence du violoniste. Donc ce sera le 27 novembre, retenez bien la date, à 20h, dans la salle Auberti de la Maison de la... Non, qu'est-ce que je dis ? J'allais dire la Maison de la Culture, qui est devenue aujourd'hui la Maison tout court. Alors dépêchez-vous, parce que les places partent très vite, et c'est normal, parce que ce sera un très beau moment de littérature et de musique. Et je voudrais juste rappeler, pour ceux qui auraient manqué l'émission, Carnot Catherine, le conseiller littéraire du festival, qui est écrivain, était l'invité des Voix du Livre avec Vincent Bernard, le président du festival, pour parler de tandem dans notre précédente émission. Donc si vous voulez tout savoir, vous pouvez la réécouter et la télécharger sur bacfm.fr ou sur memorialiste.fr. Mais revenons à une actualité brûlante, puisque c'était hier ou avant-hier, selon le jour où vous écoutez cette émission. Alors, François Grosseau, vous êtes la moitié des éditions du Chemin de Fer. Vous êtes deux avec Renaud Buener, un cas typique de situation où le tout est supérieur à la somme de ses parties.
Je ne vous le fais pas dire.
Oui. Vous avez fondé les éditions du Chemin de Fer en 2005, donc vous n'êtes plus une jeune maison d'édition, mais vous êtes une maison d'édition qui a bien trouvé sa place dans le paysage littéraire français, et pas seulement français, francophone. Et alors, vous avez quand même fait des choix très forts sur la distribution, notamment, puisque vous êtes votre propre distributeur, ce qui est rare et audacieux.
Propre diffuseur et distributeur.
Alors, j'en avais oublié un en plus. Encore plus fort, et distributeur et diffuseur. Mais vous n'êtes pas à une audace près, puisque vous avez choisi aussi une ligne éditoriale à contresens de ce qui se pratique aujourd'hui, beaucoup de formes brèves. Et en plus, à part égale avec des illustrations. Alors, pourquoi avoir choisi cette ligne, enfin, qui est l'une de vos lignes éditoriales, la forme brève, qui est quand même considérée comme très difficile à vendre et à promouvoir?
Alors, je pense au départ, on voulait surtout faire des livres de fiction illustrés par des artistes. Et que dans la mesure où l'idée était qu'il y ait un équilibre entre le texte et l'image, la forme brève permettait cela. Elle permettait une deuxième chose qui était, on ne demande pas aux artistes d'illustrer le texte, mais on leur demande beaucoup plus de s'en nourrir pour prolonger leur propre travail et pour donner une interprétation du texte. Et il se trouve que la forme brève, la nouvelle en particulier, la nouvelle instant, telle qu'elle se pratique depuis... bonne cinquantaine d'années maintenant quand même, par ces ellipses, par les blancs qu'elle laisse à l'imagination du lecteur ou de l'artiste, se prêtait particulièrement bien à cet exercice. Et troisièmement, parce que par goût, je suis un grand lecteur de nouvelles et que j'avais envie justement de, comment dire, le problème de la nouvelle, je ne sais pas si c'est un genre méprisé ou pelu. Enfin oui, pelu, c'est évident parce qu'il est certainement beaucoup plus exigeant qu'un roman de science-fiction de je ne sais quel auteur dédicaçant oui. À l'espace culturel
C'était
de Nevers.
Bio.
Voilà.
Oui.
La nouvelle se publie essentiellement pour de pures contraintes éditoriales en recueil, mm-hmm. et on avait aussi envie de dire que une nouvelle, c'était un texte à part entière, à soi seul, et que donc on ne publiait pas de recueil, mais uniquement des livres d'une seule longue nouvelle.
Avec donc cette double création, la création du texte et la création plus que graphique même, en
artistique,
fait.
Artistique, on peut dire totalement, oui, artistique. C'est vraiment un artiste qui n'a pas la pratique habituelle de l'illustration qui va s'emparer du texte. Et si je puis ajouter, ça c'était en 2005, donc ouais. Il y a un petit moment maintenant. Aujourd'hui, il arrive qu'on publie des textes beaucoup plus longs.
Oui.
On ne se cantonne pas à la nouvelle, mais je pense
J'en ai vu de très épais.
Voilà. Et il se trouve que, on en reparlera sûrement tout à l'heure, mais les trois livres qui ont paru cette semaine sont des livres plus longs. Mais je crois qu'on garde dans le choix des textes, qu'ils soient courts ou longs, ils sont jamais très très longs, parce que je trouve que ça sert à rien d'être trop long, sauf quand ça s'appelle Balzac ou Stendhal, mais
oui, ça va, ça limite. Hein.
Dans le choix des textes, il y a toujours cette exigence, c'est-à-dire de... Je crois de ne pas tout donner au lecteur. Alors, je ne sais pas si c'est une exigence, du sadomasochisme, mais en tout cas...
ça dépend peut-être du lecteur et du texte.
En tant que lecteur, je veux avoir une part active. En tant qu'éditeur, je veux que les lecteurs des livres du chemin de fer aient une part active. Et ça reste quelque chose toujours que l'on garde à l'esprit, Renaud et moi, quand on choisit des textes.
Donc, en fait, c'est un trio créateur, l'auteur, l'écrivain, l'artiste et le lecteur. Chacun fait germer sa propre vision du texte dans les blancs, aussi bien ceux du texte que ceux de l'artiste, finalement.
Exactement, mais j'ai envie de vous dire, Claire, que pour moi, c'est ça la littérature. C'est en tout cas un lecteur actif, sinon c'est juste du...
Je ne sais pas quoi, d'ailleurs, mais oui.
Un passe-temps, ou en tout cas...
Quelque
chose qu'on lit comme on peut regarder un film que l'on oublie dans les 5 minutes où on les a lus. Et c'est pas désagréable. Je peux lire des romans policiers comme ça et les oublier le lendemain et j'aurais passé un bon moment pendant 2 heures où je n'avais rien à faire.
Donc c'est votre définition de la littérature.
C'est une des définitions de la littérature. Il y a Béatrice Beck qu'on a beaucoup publié, qui disait une chose très intrigante, mais dont je ne sais pas si je suis d'accord avec ou pas. Elle disait qu'il y a des livres sans lecteurs, mais il n'y a pas de livres sans écrivains.
Oui, oui. Alors des livres sans lecteurs, oui, ça c'est sûr. Des livres sans écrivains...
A priori.
Ça me paraît difficile d'avoir un livre sans écrivain, encore que de nos jours, l'intelligence artificielle, paraît-il. Mais bon. Alors, justement, vous dites que vous êtes un amoureux des textes courts, des textes denses, des textes qui ont des choses à dire, mais qui font aussi, qui font germer quelque chose chez le lecteur. Quel est le texte, ou peut-être la série ou les textes, qui vous ont fait aimer ce genre court?
Alors, en littérature française, j'ai vraiment découvert ce qu'était la nouvelle contemporaine avec une écrivain qui est l'une des premières qu'on ait publiée, qui est Annie Saumont, qui nous a quittés, mais qui est la grande nouvelliste française.
Ah bah, tout à fait incontournable, ça c'est sûr.
Et je suis tombé vraiment amoureux de ces nouvelles. Et il se trouve qu'ensuite, il y a eu Béatrice Beck, qu'on a aussi beaucoup publié au Chemin de Fer.
Oui.
Et il y a quelqu'un très en amont qui n'est pas une auteure française, mais qui est un peu celle qui a inventé La Nouvelle Instant. Alors La Nouvelle Instant, pour aller très vite, vous avez les nouvelles à la Maupassant, c'est-à-dire qui sont
auditeurs.
Des sortes de courts romans. Et La Nouvelle Instant, c'est plutôt une nouvelle où le lecteur est plongé dans un moment M. On ne sait pas ce qu'il y a avant, on ne sait pas ce qu'il y a après. On ne nous dit pas grand-chose et c'est plutôt dans l'atmosphère, dans la description de ce qui, des personnes, pas trop des personnages, mais de ce qui se passe, que le lecteur petit à petit va comprendre qu'il y a un nœud, un problème, on va dire, qui n'est pas forcément un problème, mais en tout cas qui est le nœud de l'histoire et qui va apparaître peu à peu dans le creux, justement, dans le non-dit, plutôt. Et celle qui a inventé ça au début du XXe siècle, en tout cas l'une de celles et ceux qui ont inventé ça, c'est Catherine Mansfield, une auteure néo-zélandaise. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est aussi parce que je suis très fier qu'en janvier, nous publions un recueil de nouvelles inédites de Catherine Mansfield, de 32 nouvelles inédites en français de Catherine Mansfield.
Français,
voilà.
Non, qui n'avait jamais été. Je suis une grande fan de Catherine Mansfield.
Qui n'avait jamais été traduite. Donc voilà. Pour, après, il y en a plein d'autres parce qu'il y a aussi, il faudrait parler de tous les écrivains sud-américains, comme Cortázar, par exemple, qui sont des.
Les armes secrètes.
Voilà, des novellistes aussi.
Adoré les armes secrètes, oui. Ah oui, oui, c'est. Mais ce ne sont pas vraiment des nouvelles instants, ça, Cortázar et Mansfield. Enfin,
à Mansfield, absolument. C'est ça qui est très, très étonnant. Si vous prenez la Garden Party, par exemple, il ne se passe absolument rien. On nous décrit le vent qui souffle, on nous décrit toute l'atmosphère de cette Garden Party, mais finalement, aucun des éléments dont on sent qu'ils sont extrêmement, parfois violents, justement, ne sont dits.
C'est surtout que, en fait, ce concept de nouvel instant est finalement assez large par rapport à ce que vous avez développé tout à l'heure.
C'est juste que ce n'est plus la conception du roman, du court roman que pouvait être la nouvelle au 19e siècle. Oui. C'est ça la différence fondamentale.
Oui. Une nouvelle comme un roman comme Mrs. Dalloway est un roman instant.
Pourrait être un roman instant sans aucun problème. Après, la différence, la distinction entre nouvelle et roman. Si on parle d'instant, c'est un nombre de pages.
Oui, c'est un nombre de pages, ça c'est sûr. Pour vous parlez tout à l'heure de ce que vous souhaitiez proposer au lecteur pour que le lecteur puisse se faire sa propre idée, sa propre image, son propre récit. Quel est, selon vous, le rôle de l'éditeur dans la naissance d'un texte, d'un des livres que vous publiez ?
Alors, je pourrais corriger Béatrice Beck en disant qu'il n'y a pas non plus de livre sans éditeur, à mon sens, parce que l'éditeur, c'est surtout dans les livres qu'on propose au chemin de fer, qui sont des livres donc de texte et d'images, la part tout de même de la mise en page, du choix d'emplacement des images, même s'il se fait en accord avec l'artiste, est extrêmement importante, et le soin qu'on apporte au choix du papier, au choix du caractère, enfin toutes ces choses auxquelles on ne pense pas nécessairement, mais qui font un livre, est extrêmement importante.
Oui, surtout dans les éditions que vous publiez. Enfin, je veux dire, dans les textes que vous publiez, il y a toujours une recherche très importante de la typographie, par exemple.
Exactement. Et d'autre part, et ça, c'est vraiment... Quand on a créé la maison d'édition, on était tout jeune en tant qu'éditeur.
Normal.
On ne connaissait pas... On savait comment était fait un livre, on savait un peu. Mais on a très vite appris, avec Annie Saumont, justement, qui est l'une des premières auteurs, à me dire, mais moi, un éditeur, c'est quelqu'un qui me corrige, qui me dit ce qui ne va pas. Et j'en ai marre des éditeurs qui me disent...
Qui ne font pas leur boulot.
Voilà, exactement. Et c'est aussi ça, un éditeur, c'est-à-dire, c'est l'un des premiers, pas le premier en général, mais l'un des premiers lecteurs de l'auteur, qui va lui dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, qui va lui dire que là, peut-être, il faudrait changer quelque chose. Après, l'auteur est libre. Je me souviens de Pierre Autin-Grenier, par exemple, qu'on a publié plusieurs fois, qu'on lui disait, mais cette phrase-là, elle est vraiment très longue, elle est un peu compliquée, j'ai dû la lire deux fois, et il nous répondait, c'est pas grave, le lecteur n'aura qu'à la relire deux ou cinq fois. Il ne voulait pas corriger, mais au moins, on soulignait des choses, et après, l'auteur faisait ses choix. Il y a des choses qui sont... quand on accepte un manuscrit, on peut l'accepter en disant D'accord, à condition qu'on puisse reprendre ensemble des choses fondamentales du texte. Il y en a d'autres, c'est plus des corrections de, de détails.
Ça dépend, il y a plusieurs niveaux.
C'est ça le rôle d'un éditeur. Donc, je veux bien qu'Amazon soit un éditeur, mais je ne crois pas qu'il fasse ce travail-là. Et je ne crois pas non plus qu'il fasse le travail de mise en page, de choix de typographie, de choix de papier.
Alors, nous allons pouvoir écouter tout de suite un morceau de musique choisi par vous, François. De quel morceau s'agit-il ?
Il s'agit de la chanson de Barbara au bois de Saint-Amand, interprétée par Rokia Traoré.
Ah oui, donc c'est une interprétation très différente de celle de Barbara.
Assez.
Alors, allons-y.
Il y a un arbre, je m'y colle dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, puis j'envole dans le petit bois de Saint-Amand. Autour de nous ronde folle, puis j'envole, vole, vole, vent. Dessus de l'arbre, oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Et sous l'arbre, sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, je bonvole et s'envole nos rêves d'enfant. Mais un beau jour, tête folle dans le petit bois de Saint-Amand. Et loin du temps de l'école, je suis partie vole, vole au vent. Bonjour l'arbre. Mon bel arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Il y a un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Il y a un arbre, puis j'envole, mon corps vole, puis j'envole et s'envole. Il y a un arbre, puis j'envole.
Et c'était donc Rokia Traoré, le petit bois de Saint-Amand. Alors une ritournelle a cappella qui vous reste dans la tête. Comment est-ce que vous avez choisi cette chanson ?
Parce que j'aime bien et Barbara et Rokia Traoré. Ce serait. Mais non, parce qu'il y a quand même une chose, c'est que on voit. Tout le travail de l'interprétation.
Oui, c'est vrai que là, on le voit très nettement.
C'est-à-dire que c'est quand même pas Barbara. Et en même temps, c'est la même chanson, c'est la même musique. Et d'une certaine manière, être éditeur, faire des choix, faire un livre, c'est aussi une forme d'interprétation. Être artiste, c'est aussi une forme d'interprétation. Voilà, je crois que c'était pour montrer comme rien n'est figé et tout peut être transformé dans le respect de ce qu'était la chanson originale. Je pense que là, c'est vraiment le cas.
Ah oui, effectivement, je pense que ceux qui sont habitués à la version de Barbara vont être un petit peu surpris, sans doute dans le bon sens. Enfin, en tout cas, je l'espère. Pour en revenir, on parlait tout à l'heure du rôle de l'éditeur. Un éditeur comme Paul Otchakowski-Laurence, qui n'est pas, qui est décédé maintenant, mais qui n'est pas un éditeur de textes courts, lui considérait que il ne fallait pas justement. Vous connaissez sa position. Il préférait considérer que l'imperfection du texte faisait partie du texte. Qu'est-ce que vous pensez de cette conception de l'imperfection du texte ?
Je n'en pense rien, si ce n'est pas ce qu'on fait, mais on a publié un court roman, une longue nouvelle, je ne sais pas, une très longue nouvelle de Thomas Wolfe, donc un écrivain américain de la première partie du XXe siècle, qui s'appelle Le garçon perdu. Et justement, toute la question de l'œuvre de Thomas Wolfe est dans quelle mesure, parce qu'il écrivait en dehors du garçon perdu des romans extrêmement, extrêmement longs. C'était un peu le Proust américain avec cette idée de recherche du temps perdu. Et toute la question sur l'œuvre de Thomas Wolfe, c'est de savoir si l'œuvre pure, c'est celle qu'il avait écrite avant que son éditeur ne sabre énormément ou non.
Ah ben oui, c'est toujours la question. C'est pas la même œuvre en tout cas, ça c'est sûr.
Ce n'est pas la même œuvre, mais je reste persuadé que l'œuvre publiée reste quelque chose qui existe aussi à soi seul. Donc le travail de l'éditeur aussi. On pourra demander à Justine tout à l'heure peut-être.
Oui, tout à fait. Alors une dernière question avant qu'on appelle Justine Arnal que nous aurons tout à l'heure au téléphone. Pourquoi ce nom, les éditions du chemin de fer ?
Ah.
Encore.
je vais finir par faire comme Nancy Houston quand on lui demande pourquoi vous écrivez en français alors que vous êtes anglophone et qui dit je ne veux pas répondre à cette question. Non, parce que le chemin de fer, c'est un terme technique de maquette. Faire le chemin de fer du livre ou du journal, c'est mettre toutes les pages à plat pour vérifier en particulier les vis-à-vis texte-image et que donc, pour des livres illustrés, aller savoir pourquoi ça nous semblait une bonne idée, ce mot de chemin de fer. C'était une très mauvaise idée, puisqu'on reçoit plein de manuscrits de gens qui ont écrit sur les trains, sur le chemin de fer, de mails de gens qui nous demandent si c'est nous qui éditons La Vie du Rail.
Bah donc c'est bien que vous puissiez dire que non, nous ne sommes pas un éditeur de chemin de fer. Parce que sur votre page Facebook, vous avez vous posez à côté d'un écriteau de chemin de fer. Donc c'est pour ça,
voilà, c'est certainement pour ça. Mais on reçoit aussi des réservations pour le petit train de je ne sais plus quelle ville qui doit avoir une adresse très proche de la nôtre.
Ah oui, donc là c'est un peu dommage. Alors, quelle est votre actualité ce mois-ci?
Eh bien, sont sortis cette semaine trois nouveaux livres. Un neuvième livre de Béatrice Beck, donc cette auteure qu'on aime beaucoup au chemin de fer, qui s'appelle Une Lilliputienne, qui est le roman de la vie d'une naine harmonieuse.
Oui, j'ai commencé à lire le début, c'était très, très étonnant.
Voilà, un terme qui n'est pas très politiquement correct, mais que, justement, qui je pense est très représentatif de Beck. Le second, c'est un premier roman Quelque chose de la poussière d'une auteure, Lune Villemain, qui a 25 ans, un auteur qu'on a reçu par la poste.
Oui, je me disais, mais c'est un peu étrange.
et qui est une sorte de road movie, de western dans l'ouest, sur une île à l'ouest du Canada. Et le dernier, mais je n'en parlerai pas vraiment, puisque c'est le deuxième livre de Justine Arnal, dont on avait publié Les Corps Ravis il y a un an et demi, qui s'appelle, c'est tout un programme, Finir l'autre.
Finir l'autre, oui. Alors, justement, nous allons pouvoir poser les questions directement à Justine de ce vaste programme. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Justine Arnal, écrivain. Donc, bonjour Justine.
Bonjour.
Vous vivez et travaillez à Paris, où vous exercez comme psychologue. Et je vous remercie d'avoir pu nous rejoindre aujourd'hui par téléphone, puisque vous n'avez pas pu venir physiquement. Merci d'être avec nous à distance.
Merci à vous, Claire, pour l'invitation.
Donc, vous venez de publier, comme le disait votre éditeur François Grosseau, votre deuxième livre aux éditions du Chemin de Fer, Finir l'autre. Il y avait eu donc l'année dernière Les Corps Ravis. Alors, d'abord, moi, je n'ai lu que quelques pages de Finir l'autre, qui vient donc juste de sortir, mais j'y ai retrouvé le caractère à la fois, du moins, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, très organique et en même temps réflexif, des corps ravis. Alors, c'est toujours une surprise, parce que les deux ne vont pas souvent de pair en littérature. C'est une expérience très forte que vous décrivez. On suit tous les méandres de la pensée qui accompagnent le physique. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir d'abord, c'est ce qui vous a amené à écrire un tel texte.
Au départ, j'étais dans un train en train de lire un recueil de poésie de Bernard Noël qui s'appelle Extrait du corps.
Oui.
Et en fait, donc j'ai lu un poème, je suis tombée dessus, qui décrit très précisément la formation d'un corps et avec des thèmes qui est pour le coup très organique aussi. Et avec cette idée d'un corps qui serait à recommencer, en fait. Oui. Et c'est quelque chose, en fait, tout de suite dont je me suis saisie. Et ça me paraissait vraiment intéressant, cette idée de quelque chose comme ça. Enfin, d'un corps qui, une fois qu'il est corps, n'est pas un corps fini et doit être repris. Et donc, en fait, oui, c'est comme ça que je vais écrire là-dessus. Enfin, je vais démarrer un poème là-dessus et ça a été les premières pages de Finir l'autre.
Donc, voilà. C'est parti comme un poème.
Oui, c'est parti vraiment comme un poème, celui-là. Oui, je pensais pas que
finalement,
ça allait donner
oui,
un
ça,
roman.
Ça a débordé un petit peu du projet initial.
Après, c'est aussi parce que je l'ai bien voulu et parce que parce que j'en avais le désir, parce que voilà, j'ai vu une suite progressivement quoi au fil de l'écriture.
Et c'est en fait ce texte de Bernard Noël finalement a trouvé un écho très important en vous qui s'est développé dans ce texte qui lui est totalement, enfin je veux dire, on peut pas imaginer que vous l'ayez écrit après une lecture de ce poème de Bernard Noël. Il est totalement autonome.
Oui, il est autonome. Après, enfin, c'est de toute manière, c'est ça que je cherche, je pense, quand je lis. C'est des moments où je sens qu'il y a des voix qui s'ouvrent dans les mots des autres et que ça me fraye un chemin pour ma voix à moi, pour explorer des choses.
Vous ne voyez pas le geste que fait François à côté de moi, mais c'est exactement ça qu'il attend de la littérature. Donc c'est ce qu'il vient de dire précédemment dans la partie précédente de l'émission. Donc
je suis content.
Voilà, les grands esprits se rencontrent. vous êtes donc psychologue, c'est votre métier. Est-ce qu'il y a une influence éventuelle de votre métier sur votre écriture ou qu'est-ce que votre métier apporte à votre écriture?
Oui, il y a une influence et une complémentarité, je dirais. Je pense que je fais vraiment sans cesse des allers-retours entre l'un et l'autre, mais parce qu'en fait, au fond, c'est lié. C'est extrêmement lié pour moi parce que dans les deux cas, il s'agit du travail de la langue, enfin, et de la parole. Et puis, enfin, déjà pour les corps ravis, c'était le cas puisque ce texte avait été nourri d'expériences, de choses, enfin, que je rencontrais dans ma clinique. Enfin, disons, d'images qui surgissaient dont je savais pas nécessairement quoi faire. Et là, je pense que d'en finir l'autre, c'est plus la théorie vraiment psychanalytique qui a nourri le texte, parce qu'en fait ce qui m'intéresse aussi c'est de trouver des j'ai fait des études de lettres avant de reprendre mes études de psycho. Et donc en fait quand j'ai découvert la littérature psychanalytique, je pense que j'ai eu un rapport à ça qui était de l'ordre de la poésie. Parce que pour moi, Lacan, enfin, c'est vraiment assez proche de ce qu'on peut trouver dans des poèmes.
Et donc, il y avait une poétique de Lacan, en fait.
Une poésie un peu hermétique parfois, mais.
Oui, bien sûr, un peu hermétique, mais en même temps avec vraiment ces vraies fulgurances qu'on aime dans la poésie. Et en fait, enfin, qu'il s'agisse de Lacan ou de Freud, au fond, il y avait des concepts analytique qui me paraissait extrêmement poétique, et en fait j'aime bien m'amuser à les prendre et à les déterritorialiser au fond, parce que en fait c'est ça, parce que c'est des mots qui font partie du jargon psychanalytique qu'on retrouve surtout dans des articles de psychanalyse, et moi en fait ça m'amuse de les amener ailleurs en fait et de dans la littérature, quoi.
Oui, faire de la littérature. Donc, en fait, il y a un rôle important aussi, si je vous suis bien, de la poésie, ou du moins de l'approche poétique dans votre écriture. L'approche poétique de la psychanalyse, de la littérature, pour pouvoir écrire.
Oui, je pense que c'est la question d'avoir les mots en bouche, enfin, d'un rapport très oral à la langue. Donc, oui, forcément. Forcément que la poésie résonne bien par rapport à ça.
Alors, vous parliez de psychanalyse aussi, de vous parlez des mots en bouche. Quel est, selon vous, le rôle justement que peut jouer l'écriture aujourd'hui pour vous?
Ouh là là, c'est une question très vaste.
vous n'avez pas
de... pour moi, quel est le rôle de l'écriture dans ma vie, en fait? C'est ça, votre question?
Oui.
je pense que c'est une des composantes qui me fait tenir. Enfin, je pense que toute personne tient à partir de quelques composantes et quelques aménagements qu'il trouve. Et l'écriture joue ce rôle-là pour moi. Enfin, quelque chose, d'écrire. De border les choses irreprésentables, enfin de les contourner, de les questionner. voilà.
C'est quelque chose qui vous qui est au cœur finalement de votre mode de rapport à l'existence, au réel peut-être. Dans ce que vous dites, c'est ce qui
En tout cas, oui, la question du langage, oui. Enfin, après, et des différentes modalités que ça prend, que ça passe par un échange avec l'autre, ou par l'écriture, ou par la lecture.
Et est-ce que, alors, vous avez choisi un morceau de musique, donc c'est pas tout à fait la même chose que la poésie, même s'il y a quand même pas mal de similitudes. On va, on va d'abord écouter le morceau de musique que vous avez choisi. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel morceau il s'agit?
Oui, il s'agit de Space for Love de Julie Cruz.
Alors, nous allons écouter ce morceau maintenant. Alors c'était donc Space for Love de Julie Cruz, choisie par Justine Arnal. C'est totalement différent de celui qui avait été choisi par François Grosso. Juste une petite question tout d'abord, qu'est-ce qui vous a séduite dans cette musique ?
C'est une voix que j'aime beaucoup, que j'écoute souvent, enfin qui porte vraiment pour moi tout un univers de rêves, de mystères, de mélancolie, de troubles, plein de choses comme ça. Enfin, c'est pas pour rien si elle a autant travaillé avec David Lynch, je pense. Et puis aussi parce que en fait, la pochette de l'album d'où est extrait Space for Love, elle résonne bien, il me semble, d'une certaine manière avec Finir l'autre, parce que on peut y voir une petite boule de chair, enfin assez étonnante, une sorte d'être comme ça qui serait composé uniquement d'une tête de chair avec deux oreilles, un nez, et une bouche, et le reste de son corps se résume à une sorte de spaghetti ou de ficelle de ballon. Enfin, voilà. Donc,
oui, donc il y a une parenté très nette avec, avec ce que vous avez écrit, finalement.
Voilà, c'est ça.
Donc, il faut. Est-ce que vous suggérez au lecteur de d'écouter cette musique avant, pendant ou après la lecture de votre texte? Est-ce que vous...
Le lecteur fait absolument comme il veut. Le lecteur est libre.
Le lecteur est libre. Mais c'est vrai que c'est un choix qui peut mettre apporter une dimension supplémentaire à votre texte, justement parce que quand vous avez choisi cette musique, je n'avais pas perçu ce lien, et maintenant que vous l'expliquez, il me paraît aussi donner un éclairage supplémentaire au texte, en tout cas aux parties que j'ai lues, et d'une manière que je n'avais pas forcément perçue. Alors, nous discutions tout à l'heure avec François du rôle de l'éditeur. Mm-hmm. Donc, vous avez pu entendre ce qu'il en pensait, l'importance du dialogue entre l'auteur et l'éditeur. Est-ce que vous éprouvez, vous aussi, comme Annie Saumon, qu'il évoquait tout à l'heure, le besoin d'avoir ce dialogue et d'avoir une personne qui vous donne son avis sur les textes que vous écrivez avant de pouvoir les publier?
Ah bah oui, complètement. Enfin, je crois que ce sera pas quelque chose de très surprenant pour François. Mais
non, il n'a pas l'air surpris du tout, d'ailleurs. Vous n'avez pas l'image, vous n'avez que le son, mais il n'est pas surpris.
Mais bah oui, parce qu'en fait, enfin, je considère que forcément, on a tous des points aveugles et que en fait le texte n'a pas à être le dépositaire de ça, enfin en tout cas de tout cela, et que en fait ça permet oui, enfin il y a des choses à des moments on voit plus, on voit pas, et que ça en fait ça remet en mouvement aussi le mouvement solitaire de l'écriture, donc moi, je suis extrêmement. Après, évidemment, je fais la part des choses, enfin, dans ce que l'autre va me dire et dans ce qu'il va me dire. Qu'est-ce qui correspond lui à justement ces petites obsessions, ou ce qui vraiment parle de mon texte, c'est là
ces petites
à
obsessions.
Ce moment-là.
Oui.
J'en ai beaucoup.
Il dit qu'il a beaucoup de petites obsessions.
Oui, non, donc... mais sur Finir l'autre, par exemple, je me souviens que, Justine, que la fin de ton texte, elle était assez obscure, elle l'est toujours un peu, mais et que je t'ai dit, la fin du texte est obscure, mais je pense que ça va bien, enfin obscure, elle n'est pas évidente à la première lecture, que ça va bien, je pense, par rapport au reste du texte, et que, par exemple, tu as réagi en disant, mais moi, je ne veux pas trop que ce soit obscur.
Oui, complètement. Oui. Enfin, il y a des choses où je pense que il y a des moments on a certaines évidences qui ne sont pas du tout pour l'autre, et ça permet à ça aussi. Enfin, ça permet ça, l'échange.
Oui, là, dans ce cas précis, si j'ai bien compris, l'obscurité, ça n'était pas volontaire de votre part.
Non.
C'est
non,
ça.
Non,
donc
non.
Oui, vous
oui, mais de mon côté, celui de Renaud, on lui demandait pas de. C'était une remarque au passage, oui. Et en fait, c'est ça qui a été le plus retravaillé, je pense, dans les trois versions qu'il y a eu de Finir l'autre.
Mm. Oui, donc c'est.
Oui. Ce voilà. Était... En fait, c'est de toute manière, je pense que dans les retours, enfin, quiconque peut nous faire des retours sur un texte, on s'en saisit, on s'en saisit pas. Mais
oui,
en tout cas, c'est une chance
ce
de. C'est une chance de les avoir, en fait, enfin, ces retours, et de pouvoir, à partir de ça, améliorer un texte. Enfin...
Oui, ça permet d'avoir une autre vision. Alors, justement, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'être un grand lecteur pour pouvoir écrire? C'est-à-dire d'avoir, justement, cette familiarité avec les textes pour pouvoir écrire?
Je sais pas, parce que je veux pas parler d'une façon générale, mais en tout cas pour moi oui, évidemment, enfin ça s'est noué comme ça.
Oui, j'aurais peut-être dû dire une grande lectrice pour vous parler de votre manière d'écrire. Est-ce que vous avez besoin de lire beaucoup, d'avoir emmagasiné beaucoup d'expériences de lecture pour pouvoir écrire, ou bien est-ce que ça ne vous paraît pas utile, indispensable, nécessaire?
Ah si, ça me paraît complètement indispensable dans mon cas en tout cas. Mais après c'est vraiment pas une question de quantité, c'est comme je vous disais, c'est vraiment il y a des moments où les mots des autres ouvrent et d'autres où c'est fermé et où ça ouvre pas un passage. Enfin, je peux lire plein de romans et ça va rien m'ouvrir pendant très longtemps et puis tout d'un coup
vous tombez voilà, sur une nouvelle de Bernard Noël, sur un texte de Bernard Noël et hop.
Voilà, c'est ça. Oui. En fait, c'est chercher des sortes de passages clandestins, j'ai envie de dire là, dans oui. Les mots des autres. Voilà.
C'est une très belle formulation, ça. Je crois que oui, François opine du chef. Alors donc, votre actualité, c'est la sortie de ce livre. Mm-hmm. Est-ce que comment vous sentez cette nouvelle parution? C'est votre deuxième texte. Quel effet ça vous fait?
Ah, quel effet ça me fait? Oh là là. Pour l'instant, ça va, j'ai pas trop traumatisé. Je sais pas. Enfin, j'ai hâte de voir ce qui va se passer au niveau des lectures parce que pour le coup, je pense que c'est un texte beaucoup plus oral que le premier et je pense que ça peut être très intéressant justement de le faire sonner et de voir comment il est reçu à cet endroit-là. Après, le reste, ça m'appartient pas et je crois que le travail à faire pour moi à ce niveau-là a mis longtemps à se faire, mais il a fini par se faire sur ce texte. Donc voilà, c'est l'essentiel. Après, on verra évidemment comment les autres se l'approprient.
Si je puis me permettre, Justine a corrigé son texte vraiment jusqu'à quasiment le jour où il a été envoyé à l'imprimeur. Et je lui disais, mais s'il te plaît, Justine, arrête là. Et à chaque fois, elle recorrigeait quelque chose.
L'accouchement a été long et difficile.
Oh. Oui, mais une fois que c'est chez l'imprimeur, c'est aussi le lot, c'est fini.
Ah oui, là, ça y est, il est fini. Voilà. C'est le cas de le dire. Alors justement, vous parliez de sonorité, de son effet à la lecture. Eh bien justement, je vous propose d'écouter, pour terminer cette émission, un extrait de votre récit. Ce sont les premiers paragraphes lus par votre éditeur, François Grosso. Donc en direct, on écoute l'extrait.
Une petite boule de chair rose et élastique qui palpite avec deux gros yeux bleus au milieu. C'est moi que voilà. Je suis descendu trop vite, il va falloir me finir à la main. Trop vite, trop sèche, vite un peu d'eau sur la petite boule, j'ai besoin que ça glisse, dit maman. Entre ses deux paumes lisses et douces, je deviens toute chaude, bien pétrie entre les mains de maman, je reprends du volume, faut bien, une si petite boule, je peux pas rester. Les mains de maman sur moi, c'est de la levure dans une pâte, entre ses mains. Je m'aère, je gonfle, faut bien, une si petite boule comme moi ne survivrait pas. Maman m'hydrate, maman me pétrit, d'une main à l'autre de maman je passe, je lui colle au doigt, me refusant déjà par grumeaux à ce qu'elle veut pour moi. Mais maman sait y faire, faudrait pas croire que je suis la première qu'elle finit à la main. Faudrait pas croire, les petites boules mal finies qui descendent en catimini entre les jambes des filles, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense.
Merci beaucoup pour cette lecture.
Merci François.
Je t'en prie Justine.
Je pense que maintenant tous les auditeurs auront compris ce que je voulais dire par texte fort. Ça prend aux tripes autant qu'au cerveau. Donc merci beaucoup Justine Arnal et François Grosso d'avoir répondu à notre invitation.
Merci Claire.
Merci à vous.
J'invite tous les auditeurs à aller chez leur libraire pour voir le livre, finir l'autre, parce que, tout le monde l'aura compris, il se lit autant qu'il se regarde. Donc, à ne pas manquer cette double facette. Les Voix du Livre vous donnent rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures livresques dans les studios de BAC FM.